On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Quand déménager rime avec compliqué. Un texte de Camille Lopez paru le 3 juillet 2025 dans les as de l'info. Au Québec, le 1er juillet, la grande tradition, c'est de déménager. Partout dans la province, des camions et des voitures remplies à craquer de meubles et de boîtes parcourent les routes. Destination, nouvelle maison. Mais malheureusement, pour des centaines de familles, trouver un endroit où vivre, c'est très, très difficile. Voici pourquoi. Qui a besoin d'aide? Ce 1er juillet, au moins 2000 foyers, ça peut être des gens qui habitent seuls, des colocataires ou des familles, n'avaient pas encore trouvé de maison où vivre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité de ces gens n'habitent pas dans une grande ville comme Montréal. En fait, c'est dans la région de la Montérégie qu'on en compte le plus, 311, puis dans Lanaudière, 290. La région qui en compte le moins? La Gaspésie. 6. Trouver un logement, c'est devenu une course à obstacles. En voici 4. Premier, ça coûte trop cher. Un peu partout, il faut payer de plus en plus d'argent pour vivre dans un appartement. Et les salaires de beaucoup de gens ne suffisent pas. Deuxième, les logements moins chers ne sont pas toujours en bonne condition. Il y a des bébites, des rongeurs, des moisissures. Ce n'est pas un environnement sain. Troisième, dans certaines régions du Québec, il n'y a pas beaucoup de logements disponibles. Les gens ne savent pas où aller. Quatrième, certains propriétaires expulsent leurs locataires, ceux qui louent un logement, afin de louer leur appartement plus cher à quelqu'un d'autre. Malheureusement, certains font aussi de la discrimination, comme refuser de louer un logement à quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou parce qu'il y a des enfants. Des solutions? Au Québec, quand on a du mal à trouver un endroit où habiter, on peut demander de l'aide à des organismes qui cherchent des logements disponibles. Et en attendant, ils peuvent placer les familles dans des hébergements temporaires, comme des hôtels. Il existe aussi un tribunal pour les propriétaires qui expulsent injustement leurs locataires. Le tribunal administratif du logement. Mais des organismes aimeraient que les gouvernements aillent plus loin. Pour aider les gens à la recherche d'une maison, ils aimeraient, par exemple, qu'ils construisent plus de logements sociaux et que les locataires soient mieux protégés. Et toi, as-tu déménagé déjà? Raconte-moi. Rouge, bleu, vert. Interdiction de plusieurs colorants alimentaires. Un texte du Michael Clément, paru le 7 juillet 2025 dans les As de l'info. Les céréales, les bonbons et même le ketchup. Plusieurs aliments populaires contiennent des colorants artificiels. Leur utilisation est de plus en plus critiquée. Aux États-Unis, ils pourraient bientôt être interdits. Je t'explique tout. Les colorants artificiels ou colorants synthétiques sont des produits chimiques utilisés pour donner une belle couleur aux aliments. Ils n'ajoutent aucune saveur. Ils sont souvent fabriqués à partir de pétrole. Pourquoi les enlever? Des chercheurs ont trouvé un lien entre les colorants artificiels et certains problèmes de santé. Ces études ont été menées sur des rats. Eh oui, c'est souvent comme ça qu'on teste les effets sur le corps. Résultat, les colorants pourraient causer des problèmes de digestion, le trouble de l'attention et même le cancer chez les rats. Pas très appétissant, tout ça. Ce qui se passe aux États-Unis. Déjà, en janvier 2025, le pays a interdit un type de rouge, le Red 3. c'est parce que ce colorant était associé à des cancers chez les rats. D'ici la fin de 2026, 8 autres colorants seront bannis car ils sont jugés nocifs pour la santé. Un bleu, un vert, un jaune, etc. Déjà, plusieurs grandes compagnies ont accepté de les retirer de leurs recettes. Kraft, Heinz, General Mills, Nestlé, PepsiCo. Aux États-Unis, plus de 45 000 aliments contiennent au moins un colorant artificiel. C'est beaucoup. Les Américains risquent donc de voir certains produits changer de couleur. Et au Canada? Ici, certaines couleurs sont interdites. D'autres sont encore permises tant qu'il n'y en a pas trop. On ne sait pas si les compagnies modifieront leurs recettes pour le Canada aussi. Si oui, certains aliments pourraient bien changer de couleur ici aussi. Au Canada, on trouve des colorants artificiels dans certains jus, crème glacée, bonbons, céréales. Bonne nouvelle! On peut aussi faire des colorants naturels à partir de fruits, d'épices, de thé. Plusieurs aliments canadiens utilisent déjà ces colorants naturels. D'ailleurs, les Fruit Loops au Canada sont moins éclatants que ceux aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont colorés avec des ingrédients naturels. Voici des aliments qui sont utilisés pour fabriquer des colorants naturels. Carottes, orange. Bleuet, violet, épinard, vert, cacao, marron. Cool, non? On peut mettre de la couleur dans l'assiette sans produits chimiques. Les colorants artificiels sont encore présents, mais de plus en plus remplacés par des ingrédients naturels. Peut-être qu'un jour, tous les bonbons multicolores seront faits avec des fruits ou des plantes. As-tu déjà vu un aliment avec une couleur surprenante? Par exemple, des carottes mauves? Raconte-nous. Les As du sport. Messi enflamme Montréal. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 8 juillet 2025 dans les As de l'info. Samedi dernier, Lionel Messi et l'Inter Miami rendaient visite au CF Montréal. Grâce à 2 buts et 1 passe décisive, l'Argentin a mené son équipe à une victoire de 4-1 sur la pelouse du stade Saputo. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe dans le monde du sport. Soccer, Formule 1, baseball, enfile tes running shoes, je te donne les dernières nouvelles. Messi, Messi, Messi! C'était difficile de huer l'un des plus grands joueurs de tous les temps samedi dernier au stade Saputo, même s'il jouait pour l'équipe adverse. Alors qu'il n'avait jamais marqué à Montréal, Lionel Messi a connu tout un match. Grâce à ses 2 buts et à sa passe décisive, la défense montréalaise était à court de solutions et a fini par s'incliner 4-1 sur son propre terrain. Pour le CF, c'est une 13e défaite cette saison. Les hommes de Marco Donadel sont actuellement derniers de leur conférence avec seulement 3 victoires en 21 matchs. Courses plus tard, il l'a fait. En fin de semaine, se déroulait le Grand Prix de Formule 1 de Silverstone en Angleterre. L'écurie McLaren continue sa saison dominante avec les 2 premières places du podium, mais c'est la 3e marche du podium qui a le plus fait parler. Nico Hülkenberg, pilote de l'écurie Sauber, est allé chercher son tout premier podium. Il lui aura fallu 15 ans et 239 courses pour finalement grimper sur le podium. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé ce 3e rang. C'était de la survie durant une bonne partie de la course, a déclaré le pilote de 37 ans après la course. Fait amusant, les trophées remis aux pilotes dans les 3 premières positions n'étaient pas en métal, mais en Lego. Eh oui, Lego s'est associé avec la F1 pour créer ces trophées démontables. Nico n'était pas déçu, au contraire, il a dit « Je suis très heureux ». Ma fille pourra jouer avec. l'équipe de l'heure, les Blue Jays de Toronto. C'est bientôt la mi-saison dans la Ligue majeure de baseball, MLB, et les Blue Jays sont en feu. Grâce à une victoire de 3-2 contre les Angels de Los Angeles, l'équipe de Toronto enchaîne une 8e victoire de suite. Cette impressionnante séquence permet aux Blue Jays de trôner au premier rang de la section Est de la Ligue américaine avec 3 victoires d'avance sur les Yankees et les Rays de Tampa Bay. 100 victoires pour Djokovic. Le joueur de tennis Novak Djokovic a obtenu sa 100e victoire à Wimbledon samedi dernier. Grâce à cette victoire contre Miomir Kecmanovic, le Serbe de 38 ans devient seulement la 3e personne à accomplir cet exploit après Martina Navratilova, 120 victoires, et Roger Federer, 105 victoires. Un joueur a besoin de 7 victoires pour remporter le trophée. Celui qu'on surnomme le Joker est en quête d'un 8e trophée à Wimbledon et d'un 25e trophée au Grand Chelem, ce qui ferait de lui le joueur le plus récompensé en Grand Chelem de l'histoire. Et toi, pratiques-tu un sport pendant l'été? Si oui, lequel? Cinquième arrêt, le Québec et les îles de la Madeleine. Un texte de Lisberthe Cernay, paru le 6 juillet 2025 dans les As de l'Info. Lisberthe Cernay est journaliste. Elle s'est lancée dans un grand voyage en solo à travers le Canada. Sur sa route, elle rencontre des jeunes de ton âge et elle va visiter leur lieu coup de cœur. Suis-la tous les dimanches dans sa quête. Ma visite du Québec commence aux îles de la Madeleine. Pour m'y rendre, j'ai pris 2 traversiers. Je me suis rendu à l'école aux Iris pour rencontrer Éloi de la Durantais. Éloi a 6 ans et est en première année. C'est avec beaucoup d'assurance qu'il m'a accordé une entrevue devant les 17 autres élèves de sa classe qu'il écoutait avec attention. Il me parle des projets comme les plantes qu'ils font pousser. La professeure, Marie-Andrée Bourgeois, me dit que les élèves ont choisi d'avoir des poussins cette année. L'école, aux Iris, compte 90 élèves de la maternelle à la 6e année. Puisque l'école est très près de la plage, les élèves prennent leur cahier et vont travailler les 2 pieds dans le sable quand il fait beau. Éloi aime particulièrement cela. On va beaucoup dehors et on fait beaucoup d'activités très amusantes. Aux îles de la Madeleine, il vente fort. On dit qu'il y a un vent à écorner les bœufs. Connais-tu cette expression? Un habitant des îles m'a dit que cette expression vient du fait que les cultivateurs coupaient les cornes de leurs vaches par grand vent pour éviter que les mouches viennent s'y installer et causent de l'infection. Après les îles, direction Chicoutimi. De retour sur le continent, j'ai poursuivi mon périple en allant à Chicoutimi, un arrondissement de la ville de Saguenay. Je me suis rendu à l'école des 80, dans la classe d'Annie Tondreau, pour y rencontrer Chloé Sergerie. Elle a 12 ans et elle est en 6e avec 19 autres élèves. À l'école des 80, il y a un projet vraiment spécial qui s'appelle Patapan. Il sert à faciliter le partage de culture entre les enfants autochtones et allochtones, les enfants qui ne sont pas autochtones. Il permet aussi aux élèves des Premières Nations vivant en ville de garder un lien fort avec leurs ancêtres. Il y a également des cours de langue innu et atikamekw, me dit Annie Tondreau. Puisque Chicoutimi est très connecté avec la nature, Chloé me suggère d'aller marcher au parc de la rivière du Moulin. Dernier arrêt québécois, Alma. Je me suis ensuite rendu dans la ville d'Alma. Comme Chicoutimi, elle fait partie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'y rencontre Lily Lavertu, Louis Desgagnés et Édouard Blackburn. Ils ont tous 9 ans et sont en quatrième année dans la classe de Madame Karine Bouchard. J'ai suivi les trois élèves dans les couloirs de l'école Notre-Dame. « Notre école, elle a beaucoup de bienveillance, » me dit Louis. « Les élèves sont super impliqués. » Tout le monde était d'accord. Je devais aller visiter le Saint-Crème. Le Saint-Crème est une ancienne église qui a été transformée en hôtel. On y trouve aussi un restaurant et une crèmerie. Lily me dit que la plupart des élèves ont été baptisés là-bas, ce qui rend cet endroit unique pour elle. La semaine prochaine, Lisberthe nous fera visiter l'Ontario. Mission, rendre nos objets plus écolos. Un texte de Nathaniel Bronner paru le 2 juillet 2025 dans les As de l'Info. Durant le festival Eureka à Montréal, j'ai rencontré des jeunes du secondaire qui ont repensé des objets du quotidien afin qu'ils soient plus écologiques. C'était pour le concours « L'Odyssée de l'objet ». Je te présente quelques idées qui m'ont marqué. La thématique du concours cette année était les trois R : réduire, réutiliser, recycler. Marcher. On faisait des blagues sur les types de semelles qu'on pourrait inventer, et celle-ci est devenue réalité, m'explique l'équipe en entrevue. Les cinq coéquipiers portent un uniforme obligatoire à l'école, mais chaque année, ils ont dû jeter leurs souliers parce que la semelle était brisée. Pourtant, le reste était correct, s'exclame Thomas Le Tarte. Alors ils ont créé un soulier à semelle détachable, moins de gaspillage. On pense que tout le monde pourrait faire comme nous, imprimer ses semelles à l'aide d'une imprimante 3D, espère Thomas. Ces jeunes aimeraient créer des semelles pour différentes activités comme la course, la montagne, changer les couleurs ou même imprimer un dessin comme une grenouille. Alcalac. Savais-tu que les lacs peuvent être acides? C'est une des conséquences de la pollution. Résultat, les plantes et les animaux ont des problèmes de santé. Les cinq jeunes derrière Alcalac ont créé une boîte qui vérifie le niveau d'acidité et qui diffuse automatiquement un produit pour ramener l'équilibre s'il le faut. On voulait aider l'écosystème marin, m'explique Adam Sarin. Leur dispositif contient assez de produits pour fonctionner sans interruption pendant 3 ans. Ils aimeraient perfectionner la boîte pour qu'elle avertisse un humain lorsqu'elle n'a plus de produits. Métanovore. Ces 4 fans de barbecue ont eu une idée. Et s'ils créaient un contenant qui utilise nos restants de table pour recueillir du méthane, le gaz qui fait fonctionner les barbecues? C'est un procédé utilisé par leur ville, Québec. L'équipe a trouvé un moyen de reproduire cette idée à la maison. Car 3 tables. Les sacs à dos des jeunes sont trop lourds. On voulait qu'ils soient bien, lance Mélodie Bergeron. Les 4 membres derrière le car 3 tables ont pensé réutiliser les pancartes électorales. Après les élections, elles ne servent plus, c'est du matériel perdu. Alors, ils ont créé un cartable en collant 2 pancartes l'une contre l'autre pour cacher les visages. Solide, léger et recyclable, tu peux le démonter pour remplacer ses pièces brisées et allonger sa vie, s'exclame Maya Castonguet. D'après l'équipe, tout peut se réutiliser. Il suffit d'avoir de la créativité. Le premier prix est revenu à Nour Bouyad, Gladys Darazi, Émilie Anrandu, Sipi Yuang et Angelica Zarova du Collège Sainte-Anne, Montréal. Elles ont créé un composteur qui fonctionne toute l'année grâce à l'énergie solaire. C'était beau de voir les étoiles dans les yeux des jeunes qui racontent leurs projets. Tu te souviens du cadenas puant? Sa créatrice, Aïko Leroux, avait d'abord eu cette idée pour un concours aussi. Maintenant, c'est son entreprise. Alors, on va garder un œil sur ces objets ingénieux et leurs jeunes inventeurs. Peut-être qu'on verra bientôt leur création dans notre quotidien. Et toi, quel objet réinventerais-tu pour le rendre plus écologique? Elon Musk crée le Parti de l'Amérique. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 8 juillet 2025 dans les As de l'Info. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, a annoncé samedi qu'il lançait son propre parti politique aux États-Unis, le Parti de l'Amérique. L'ancien allié de Donald Trump s'est complètement retourné contre le président. Avec son nouveau parti, il souhaite libérer les Américains en leur offrant un nouveau choix aux élections. Est-ce possible? Elon Musk, c'est le grand patron de Tesla, de SpaceX et de X. En 2024, il a dépensé des millions de dollars pour faire élire Donald Trump. Il a ensuite été recruté par le gouvernement américain pour couper dans les dépenses et mettre plus de 200 000 employés à la porte. Mais depuis un mois, rien ne va plus entre Trump et Musk. Les deux hommes se sont ouvertement chicanés sur les réseaux sociaux. Musk a répété à quelques reprises qu'il allait se lancer en politique. C'est maintenant fait. Samedi, le multimilliardaire a annoncé sur X qu'il allait fonder le Parti de l'Amérique. Selon lui, les États-Unis sont prisonniers du système à deux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Cela fait plus de 150 ans que le parti au pouvoir est soit l'un, soit l'autre. Il croit que les électeurs ont besoin de nouvelles options. La réaction de Trump face au parti politique de Musk, la voici. Il peut s'amuser autant qu'il veut avec ça, mais je pense que c'est ridicule. C'est ce que Donald Trump a répondu aux journalistes samedi quand ils lui ont demandé ce qu'il pensait de l'annonce d'Elon Musk. Président Musk? Puisque Elon Musk est né en Afrique du Sud, il ne peut pas devenir président des États-Unis. Selon la Constitution américaine, seules les personnes nées aux États-Unis peuvent se présenter à ce poste. Par contre, Musk a énormément d'argent et de pouvoir. Avec son parti politique, il pourrait influencer les prochaines élections. Et elles arrivent vite. Les élections mi-mandat se tiendront en novembre 2026. Le poste de président n'est pas en jeu lors de ce vote. Par contre, une grande partie des élus américains vont tenter de se faire réélire. La présence d'un troisième parti politique pourrait retirer des votes au parti républicain du président Trump qui détient le pouvoir au Sénat et à la Chambre des Congrès. Les priorités du Parti de l'Amérique. Le parti d'Elon Musk n'a pas encore de programme, mais on connaît les positions de l'homme d'affaires. Il a partagé une liste de priorités que des utilisateurs de X lui ont soumis. En voici quelques-unes. Réduire les dépenses du gouvernement. Accroître la liberté d'expression. Moderniser l'armée. Investir en technologie. Pour l'instant, le Parti de l'Amérique n'est qu'un projet. Ce n'est pas encore un parti officiel. Elon Musk a la réputation d'être impulsif et de changer d'idée, alors impossible de dire si son parti verra vraiment le jour. Toi, si tu pouvais voter, préférerais-tu avoir un peu ou beaucoup de choix? Au Portugal, une fin d'année pas comme les autres. Un texte de Maxime Ouellette paru le 9 juillet 2025 dans les As de l'Info. Les vacances d'été sont bel et bien commencées. As-tu célébré la fin de l'année avec tes amis? Lorsque je suis allé au Portugal récemment, j'ai découvert que les diplômés de l'Université de Coimbra, eux, ont une drôle de tradition pour célébrer la fin de leurs études. Cette fameuse célébration de fin d'année débute au mois de mai. Des milliers d'étudiants se réunissent alors pour défiler dans les rues de la ville. sous les applaudissements de leur famille et de leurs amis, ils s'amusent en tirant partout avec des fusils à eau, même dans la foule. Durant toute la semaine, c'est la fête dans la ville de Coimbra. Certains célèbrent jusqu'à très tard le soir ou même jusqu'à très tôt le matin. À la fin de l'année scolaire, les étudiants de chaque faculté fabriquent des décorations pour leurs chars allégoriques qui participent à la parade. Ces constructions de soie et de papier mâché représentent souvent leur domaine d'études ou des événements qui ont marqué l'année. Les couleurs des véhicules indiquent à quelle faculté appartiennent les différents étudiants. Ce n'est pas tout. Un peu comme dans les films Harry Potter, les étudiants de l'Université de Coimbra portent de longues capes noires par-dessus leurs chemises. Lors des festivités, ils portent aussi des chapeaux haute forme et se baladent avec une canne. Voici à quoi ressemble l'uniforme des diplômés de l'Université de Coimbra. Tu remarques peut-être que son chapeau est troué sur le dessus. C'est normal. C'est un proche qu'il a brisé avec sa canne lors d'un petit rituel. Ça indique que l'étudiant a bel et bien terminé l'école. Il est toujours possible de savoir de quelle faculté viennent les étudiants en regardant les couleurs sur leur uniforme. Découvre quelles couleurs sont associées à chaque programme d'études. Le savais-tu? L'Université de Coimbra est l'une des plus anciennes écoles de toute l'Europe et même du monde. Elle a été créée en 1290, il y a un peu plus de 730 ans. À l'époque, la ville de Québec n'était pas encore fondée et Christophe Colomb n'avait pas encore mis le pied en Amérique. Rappelle-toi, il est arrivé dans les Caraïbes en 1492. Et toi, est-ce qu'il y a des festivités organisées à ton école pour la fin des cours? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Michel, Eva, Mathieu et Samuel.